intervenants, Brigitte Rayet, donc du CU des Bordeaux et de la Fédération Addiction, qui va essayer de répondre à la question « Peut-on faire de la réduction des risques dans l'Hexapa ?» Provocatrice.
Le micro marche ? Oui, j'ai l'impression. Donc, Pierre m'a demandé de participer à cet atelier. On en a discuté au téléphone, j'étais un peu pressée. Et puis après, j'ai vu sur le programme le titre. RDR Hexapa, mission impossible. Point d'interrogation. Alors, je lui ai dit, ben, moi, ce que je vais faire, je vais raconter ce qu'on fait quoi, tous les jours. Alors, je suis médecin dans un Hexapa et dans un CARUD. Et c'est un petit peu particulier parce que le matin, on est Hexapa, l'après-midi, on est CARUD, les professionnels sont les mêmes, les usagers, il y en a qui sont Hexapa, il y en a qui sont CARUD, il y en a qui sont Hexapa-CARUD. En tout cas, je suis très contente d'une chose, c'est que l'équipe a 4 ans, elle a mis 2 ans, elle me posait toujours la même question, il est Hexapa, il est CARUD, j'ai dit il y en a qui sont Hexapa, il y en a qui sont CARUD, puis il y en a qui sont un peu les deux. Et l'autre jour, en réunion, on m'a dit « Ah oui, il y en a qui sont Hexapa, il y en a qui sont CARUD, et puis il y en a qui sont un peu les deux. » Donc, bon, les choses commencent à avancer. Voilà. Donc, je vais vous raconter de façon très, très pragmatique ce qu'on fait dans le Hexapa. Voilà. Alors, la réduction des risques, j'ai essayé de donner des définitions. Je le relisais, l'expertise INSERM. Alors, pour moi, c'est l'accompagnement de l'usager, là où il en est dans son parcours. Donc, bon, on peut faire ça dans le CARUD. On peut faire ça dans le Hexapa aussi. On peut faire ça ailleurs aussi. Et la réduction des risques, mais bon, le soin aussi, c'est le seuil adapté. Nous, on ne parle jamais de haut seuil, de bas seuil. Pour les traitements de substitution, on parle de seuil adapté. Donc, le patient arrive avec sa demande, et puis on voit. Alors, bon, nous, on a beaucoup travaillé autour du VHC. On était le premier Hexapa, CARUD, Hexapa, à avoir un fibroscan. Donc, voilà, on a fait de la prévention, de l'information autour du VHC. On a fait du dépistage, on a fait l'unité de lieu, on avait le fibroscan, on avait les pathologues, on avait tout ce qu'il faut. On a commencé à voir les patients venir se faire plus dépister, venir faire des fibroscans, venir se faire plus traiter. Donc ça aussi, je pense que l'accès au traitement de l'hépatite C, c'est un des éléments importants de la réduction des risques. Là, on est en train de penser à mettre en place une étude sur les tests salivaires, puisqu'on peut le faire que actuellement sous forme d'étude, une étude avec des buvards. Voilà, on essaie de faciliter encore plus le dépistage. Et pour l'accès aux soins, ben, je vous en ai parlé. On a les pathologues qui viennent. Au début, elle venait une fois par mois. Maintenant, elle vient une fois par semaine. Sa consultation est pleine. Nos patients, ben, comme il le disait ce matin, nous, ils vont pratiquement tous au bout du traitement. Ça se passe bien, ils voient le psychiatre, ils nous voient très régulièrement, ils voient les infirmières, ils voient les éducateurs, ils vont la plupart jusqu'au bout de leur traitement. Donc voilà, déjà, on fait pas mal de trucs autour du VHC. Alors là, je vais reprendre, peut-être qu'il y en a qui étaient là à 8 heures ce matin, ceux qui étaient courageux. J'ai présenté le guide, entre guillemets, des pratiques TSO qui a été fait en 2009 par la Fédération Addiction, enfin l'ANITEA à l'époque. Et donc ce guide est en deux parties, je ne vais pas tout refaire l'exposé de ce matin, ça va être un peu long. Mais il y a une fiche qui s'appelle TSO et réduction des risques. Alors je vous la présente, bon elle est un peu longue, je vais juste prendre les points importants. Alors, le traitement de substitution a pour objectif général la diminution des dommages. Donc là, je crois qu'on est en plein dans le cœur du sujet. Il facilite l'accès aux soins psychiques et somatiques. Donc voilà, comment la méthadone ou le subutex peuvent être des outils de réduction des risques quand on accompagne le sujet là où il en est. Alors, le traitement de substitution aide à une meilleure gestion des consommations. Donc, ben, nous, on a des patients qui, consomment pas la semaine ou qui consomment un peu, qui consomment le week-end, enfin voilà. Donc on adapte le traitement, enfin on adapte, on monte pas et on descend pas en fonction des consommations. Enfin bon, ils nous parlent de leur consommation, ça se passe plutôt bien. Ça sert aussi à diminuer les consommations. C'est une opportunité de rencontre avec un lieu de soins. C'est vrai que, bon, moi, j'ai commencé avec les traitements de substitution, donc avant, je ne sais pas, mais a priori, d'après ce que me disent mes collègues, ben, il y a beaucoup plus de patients maintenant, et nous, c'est vrai que, j'ai ma collègue médecin dans la salle, nous, on a vraiment beaucoup, beaucoup de patients qui viennent demander des traitements. Après, l'objectif du traitement, bon, ben, il est défini avec le patient. Je pense que c'est pour revenir un peu sur ce que Pierre appelait la citoyenneté. Nous, on va appeler ça l'accompagnement. Enfin, je sais pas, chacun l'appelle à sa façon. Un projet de soins individualisé pour chaque patient. Chaque patient va avoir son projet de soins, va le partager avec les soignants. Il n'y a pas de protocole bien établi. Et se centrer sur la réduction des risques. Alors, je ne relis pas tout. Et après, les professionnels de XAPA informent les patients sur les mesures de réduction des risques, facilitent l'accès au matériel utile à cet effet et proposent des programmes d'éducation thérapeutique. Tout ça pour passer à l'autre diapo. Voilà, matériel de réduction des risques. Alors, nous, comment on fait ? Bon, comment on parle de l'injection ? Ben, je crois qu'on en parle simplement. On demande, on voit, et puis on voit comment, on leur demande comment ils font, on voit s'il y a des signes d'injection. Enfin, et une fois qu'on a parlé d'injection, on leur dit, maintenant, si vous voulez, est-ce que vous utilisez du matériel stérile ou pas ? Nous, de toute façon, on en a. Vous descendez en bas parce qu'il y a deux étages. Bon. Et puis vous prendrez ce qu'il vous faut et puis vous allez aller voir Christophe qui est notre éducateur spécialisé dans la réduction des risques. Il va vous montrer le stérifiltre parce que vous verrez, c'est beaucoup mieux. Et puis comme ça, ça marche bien. Le patient, il vient chercher son ordonnance et puis s'il y a des problèmes d'injection ou s'il injecte, il peut avoir le matériel d'injection sur place. Alors avant, on ne fonctionnait pas tout à fait comme ça. On leur demandait de revenir dans les heures du CARUD. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, le pauvre, il va venir le matin chercher son traitement et l'après-midi chercher son matériel. Alors à un moment, on s'est dit, on va tout donner en même temps et ça se passe très bien. On donne aussi des kits SNIF, des roules tapaille, les kits CRAC, bon, je l'ai noté, mais c'est expérimental. Nous, à Bordeaux, on n'a peut-être pas trop de CRAC. Voilà. On donne aussi des documents divers et variés. Donc, donner du matériel de réduction des risques en XAPA, je crois que c'est vraiment, ça fait partie de l'accompagnement. Ça ne pose pas de problème particulier. Je ne pense pas que nos patients injectent plus. On avait fait une étude sur notre prévalence VHC. On est à 28%, je crois. Donc, on n'est pas hyper élevé. Donc, a priori, dans l'accompagnement, je crois que c'est vraiment un outil, comme dirait mon collègue Didier Spinerny, qui n'est pas dans la salle, c'est le kit de survie, le matériel de RDR en XAPA. Et après, bon, là, c'est des questions. Et les autres addictions, comment on fait de la réduction des risques ou réduction des dommages avec l'alcool, avec le cannabis, avec les addictions sans produit? Je n'ai pas forcément de réponse, les diminutions des consommations, voilà. Donc, moi, je réponds comme ça à la question, que ça n'a pas RDR, mission obligatoire. Et ça se passe bien quand on le fait. Merci.
Je voulais juste faire un commentaire rapide. Je trouve que c'est extrêmement important ce qui a été présenté comme pratique parce que, juste pour confirmer avec des données scientifiques que c'est très important d'avoir ce type de pratique, en fait, il y a un travail qui a été fait par la cohorte d'Amsterdam sur 20 ans de suivi d'usagers des drogues qui a mis en évidence que seulement les usagers qui avaient accès en même temps au traitement de substitution et au programme de change de seringue, de façon simultanée, je veux dire qu'il avait accès en même temps, même pendant le traitement, c'était ceux qui avaient une réduction significative du risque de contamination VHC. Donc apparemment, l'effet d'associer les deux, donc le kit de survie et les traitements de substitution, c'est vraiment fondamental si on veut combattre le VHC, et c'est ce qu'on appelle la prévention combinée. Ça correspond à admettre que l'effet d'un traitement de substitution est fait pour plusieurs objectifs, qui est, un, c'est la réduction des consommations, mais les consommations continuent pendant le traitement, et ça il faut l'admettre, et donc il faut être vigilant, donc fournir donc tous les outils pour éviter que les personnes puissent se contaminer s'ils ne le sont pas encore, ou qu'ils puissent contaminer les autres aussi. Donc c'est vraiment un résultat, une approche qui correspond à vraiment l'approche pour prévenir le VHC.
Oui, j'avais deux questions. La première, c'était sur l'accès aux soins avec un seuil adapté. Je voulais savoir si le patient vient en disant « moi je veux du Subutex, moi je veux de la méthadone, moi je veux shooter mon Subutex, moi je voudrais de l'héroïne », si c'est ça le seuil adapté, c'est-à-dire c'est lui qui propose et vous faites en fonction de sa demande. Et la deuxième question, la pose tout de suite, elle est très courte. Les 28% d'usagers de drogue contaminés par le VHC, c'est des usagers par voie intraveineuse, je pense. Ce n'était pas l'ensemble de vos usagers de drogue.
C'est l'ensemble de nos usagers.
Sniffer comme shooter,
sniffer
comme injecteur.
Shooter, mais alors, j'ai plus l'étude en tête. Mais on retombe sur les chiffres de la région de... On a eu l'étude Coquelicot en 2004 dans la région qui trouve à peu près les mêmes chiffres que nous. Bon, on est peut-être une région où on n'est pas hyper contaminé. Après, sur le seuil adapté, de l'héroïne, on n'en distribue pas à Bordeaux. Hein. On n'en a pas. Pardon ? Non, en général, les patients viennent quand même avec une demande de traitement. Donc, on répond à la demande de traitement. Alors, Subutex, méthadone, souvent, c'est eux qui... Alors, nous, on a actuellement beaucoup de patients, je ne sais pas si vous, c'est pareil, qui arrivent, qui ont déjà débuté dans la rue. Hein. Voilà. Donc, souvent, ils ont une idée déjà préconçue sur ce qu'ils veulent. Alors, c'est quand même rare qu'ils disent... Enfin, on leur demande s'ils injectent ou pas. On a des patients qui injectent le Subutex et qui continuent à injecter. Et moi, j'en ai un, là, il n'y a pas longtemps. Alors, c'est un patient qui est très précarisé, qui injecte son Subutex, qui a déjà fait plusieurs complications, il a fait un choc septique. Bon, le jour où je lui ai expliqué... Alors, on a en plus des stérifiltres, on a les filtres toupies. Alors, il a découvert les filtres toupies et c'est une révélation pour lui. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Et on a essayé hein, de le passer à la méthadone. Ça fait plus d'un an que je lui en parle, mais il ne veut pas. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on a tous le problème à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, il y a quelqu'un qui prend du temps ben, pour voir comment il injecte, pour lui demander comment il injecte, pour voir comment ça se fait, pour lui proposer de nouveaux outils, de nouvelles solutions. Voilà. Mais on le prend au stade où est le patient, on l'accompagne, mais enfin on l'accompagne avec une idée de changement vers une réduction des dommages. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Oui.
Alors, c'est des... Je n'ai pas Christophe sous la main.
Alors, le filtre toupie, c'est un filtre à membrane. Donc, on l'appelle toupie tout simplement parce que la membrane qui sert à la filtration, elle est coincée en fait dans un plastique et ça lui donne une forme de toupie en fait. Le filtre toupie, en fait, on en a eu l'idée parce qu'on cherchait à apporter aux usagers une solution de filtration efficace à la fois contre les bactéries et les champignons. Et donc, on a fait tout un travail de recherche pour savoir quelles bactéries et champignons étaient les plus souvent pathogènes pour les usagers. Et ces bactéries et champignons ont des spores qui vont jusqu'à 0,5 microns. Donc on a travaillé sur ce filtre qui a une membrane qui filtre jusqu'à 0,45 microns et qui permet donc la filtration des bactéries et des champignons. C'est un outil qui est actuellement en expérimentation. Donc il y a une étude qui est faite en parallèle de l'enquête Coquelicot pour travailler sur l'acceptation en fait par les usagers de ces outils. Et donc pour les structures qui ne les connaissent pas, CEF peut vous en fournir à titre expérimental pour que vous puissiez voir ce que c'est et comment ça fonctionne.
Oui. Est-ce qu'on a le droit d'être hérétique et de considérer que, après réflexion, moi je suis plutôt pour la séparation XAPA-CARUD. En tant que psychiatre, il m'est très difficile, on en a parlé un peu tout à l'heure, d'être à la fois dans quelque chose qui est justement de faire parler et de prendre une distance par le langage sur le corps, sur la seringue, sur l'injection, c'est-à-dire vraiment de me détacher un petit peu de cette réalité et d'être à la fois dans cette réalité qui est de fournir un échange de seringues et d'être donc au plus près de ce corps-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que pour moi, être efficace et être dans la réduction des risques, c'est à la fois tenir les deux bouts, c'est-à-dire proposer un accompagnement, et on travaille beaucoup avec... Alors, ce n'est pas un CARUD sur Fréjus, Saint-Raphaël, on n'a pas les moyens, mais on a quand même une association qui s'occupe de réduction des risques, de programmes d'échange de seringues, de kits, etc. On fait cet accompagnement-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus, j'allais dire, dans le déni, hein, je veux dire, on n'est pas non plus naïf et penser que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais il me semble que le travail qu'on est amené à faire, justement, sur ce qu'est aussi la toxicomanie, ce qu'est l'usage de drogue, hein, puisque toxicomanie est là aussi hérétique comme mot, donc ce qu'est l'usage de drogue, est très difficile. Et j'en ai parlé aussi avec des patients, et un certain nombre de patients, eux, auraient vu d'un très mauvais œil, par exemple, un échange de seringues au sein du CSST, en me disant, moi je ne suis pas concerné par ça, moi je ne veux pas, alors, à tort ou à raison, je dis, vous n'êtes pas concerné aujourd'hui, vous le serez peut-être demain. Et voilà, par contre, à tout hasard, où est-ce que vous pouvez avoir tout ce qui va avec cette réduction des risques. Alors, c'est une position, je fais exprès de dire qu'elle est hérétique, parce que ce n'est pas forcément une mission obligatoire, à mon sens, mais elle n'est pas impossible non plus de tenir les deux, à condition qu'on soit très... Alors, c'est une petite ville aussi, hein, donc je vous concède qu'effectivement, entre venir au CSST et aller jusqu'à la villa qui s'occupe de la réduction des risques, il n'y a pas beaucoup à faire à pied. Mais voilà, je crois que c'est une position qu'on pourrait essayer de discuter, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, le risque n'est pas de recouvrir par la réduction des risques toute une autre question qui est... Et deuxième réflexion, puis je m'arrête, c'est qu'on parle TSO et réduction des risques, et on oublie quand même qu'un grand paquet d'injecteurs aujourd'hui sont des gens qui utilisent la cocaïne et qui donc n'ont pas de raison particulière d'être dans les traitements de substitution.
C'est pour ça qu'on parle de salle de consommation. On ne l'a pas oublié.
Je vais répondre en disant que je suis d'accord avec vous sur certains points, pas sur tous. Alors, ça me rappelle une discussion qu'on a eue il y a un mois à Biarritz, Pierre. Justement, on discutait de... Parce qu'on s'est un peu entraîné avec Pierre avant de... On avait fait une table ronde, on fait des journées régionales en Aquitaine. Et on avait fait une table ronde, justement, je ne sais même plus comment ça s'appelait, RDR et XAPA, je crois. Voilà, ben c'était pareil. Et on mangeait, puis... Au bout d'un moment, on se dit, mais quel est l'intérêt qui est finalement des XAPA et des CARUD si on fait la même chose? Et puis, il y avait Martine Lacoste donc, qui disait, mais l'accueil quand même. Et c'est vrai que, après, moi, j'ai réfléchi à ce qu'on fait. Alors, on est peut-être un XAPA qui est un peu un CARUD qui est un peu un XAPA, mais notre CARUD n'est pas un XAPA et notre XAPA n'est pas un CARUD. Je crois que c'est important de garder les deux lieux. Parce que, comme vous le disiez, il y a des patients, moi, ils me disent, l'après-midi, c'est pas possible, quoi. Avant d'arriver dans votre bureau, il faut que je traverse une meute de chiens, parce que nous, on a beaucoup, beaucoup de chiens. Enfin, ils se retrouvent pas là. Donc, c'est bien qu'on leur garde le moment du matin. Même des fois, je les prends tôt le matin, il n'y a personne. Voilà, je crois que c'est important qu'il y ait ce côté accueil un peu différent, écoute un peu différente. En plus, c'est confortable pour le professionnel. Hein. Les sapas où il n'y a pas de carude, c'est confortable pour le professionnel. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc là-dessus, et le carude aussi, il y a tout ce qui est accueil et douche et prestations d'hygiène et tout ça. Les patients restent, donc du coup, le soin, c'est plus compliqué. Enfin, le soin TSO, je trouve que c'est bien qu'il se fasse à des moments, peut-être des fois particuliers. Mais bon, j'avoue que sur mon temps carude, je fais un peu de TSO aussi. Voilà. Mais après, sur la délivrance de matériel, là, je trouve que ce qu'on fait, moi, j'y adhère. Je trouve que c'est bien de pouvoir donner les deux à des moments. Alors peut-être aussi, c'est très particulier. Hein, c'est le même lieu, les mêmes professionnels, des temps différents. Donc comme les professionnels ne sont pas complètement coupés en deux, ben, finalement, on s'est mis à faire un peu les deux. Je comprends que sur certains endroits, il y ait des endroits séparés. Après, je ne crois pas que ce soit un obstacle à la délivrance de matériel. Voilà.
Je complète. Pour moi, TSO et RDR, les TSO, c'est de la réduction des risques. C'est un outil pour aider les usagers à gérer leur consommation. Et ce n'est pas autre chose. Ce n'est que ça. Et alors, l'autre truc, c'est qu'en séparant la distribution de matériel et la délivrance de TSO, on s'expose vraiment, du coup, à ce que les usagers ne disent rien de leur consommation. Et du coup, se mettent dans une situation où ils vont rencontrer ils vont satisfaire à la volonté du médecin, mais ils vont ne plus parler du tout de leur consommation. Et ils vont mentir sur toute leur consommation. Et moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Ce fait-là, et parce que on en connaît des tonnes. Moi, j'en connais des tonnes, des usagers qui shootent, ou qui shootent leur subutex, mais devant le médecin, c'est surtout, ils ne disent rien. Alors, ça peut être parce que le médecin ne leur permet pas de parler, ça peut être aussi parce que l'usager se fait une représentation du médecin, il a envie de satisfaire ce dont il croit ce qu'est le médecin. Mais c'est pour ça que moi, la distribution de seringues me paraît vraiment très très importante, c'est que c'est aussi un signe aux usagers qu'ils sont le bienvenu dans les XAPA, même s'ils consomment, et que leur discours est le bienvenu aussi sur les drogues. Voilà.
Alors, juste si je peux me permettre, moi je travaille avec Brigitte Rayet, et pour appuyer ce que tu viens de dire, Pierre, moi je l'ai vécu dans ma pratique, c'est-à-dire que je travaillais avec Brigitte, elle vous a bien expliqué comment on fonctionnait, et il y a très peu de temps, je suis allée prendre la suite d'un médecin, mais qui travaille dans une toute petite antenne, et là où il n'y a pas du tout de carude, il n'y avait pas de programme d'échange de seringues, c'était avec les pharmaciens qu'on travaillait. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des patients que je voyais qui n'étaient pas usagers, dans ce que je connaissais d'eux d'après le dossier. Moi, de ma pratique, ça m'est paru complètement impensable de ne pas aborder la question de l'injection avec ces patients-là. Donc, du coup, je me suis mise à... j'ai amené du matériel pour ces patients. Et donc, c'est vrai qu'au cours de ma consultation, je suis médecin généraliste, maintenant, ça ne me pose pas de problème. Comme disait Brigitte, je fais ma prescription et avant que le patient ne parte, je lui donne aussi du matériel. Et dans ce que disait Pierre, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a des patients qui, de bouche en oreille, heureusement, les usagers, ils discutent entre eux. Ils font un peu le travail que nous, on devrait faire quand on n'a pas le temps de le faire. Et qu'il y a de plus en plus de patients qui m'étaient pas connus comme patients injecteurs, qui m'ont demandé du matériel. Donc je crois que ce que tu disais là, c'est de leur laisser la possibilité d'en parler. Ça en passe peut-être par cet outil-là. Voilà.
ça va, on entend.
Je pense qu'on peut tout à fait aborder, je comprends ce que dit Pierre, mais en même temps, je pense qu'on peut tout à fait aborder cette question-là. C'est, je suis tout à fait d'accord sur la question de la représentation du médecin. Alors peut-être que c'est un truc qu'on a travaillé depuis assez longtemps dans notre CSST, sur justement que la question du traitement de substitution n'était pas liée, pour moi en tous les cas, ni à l'absence de... Alors déjà, le mésusage est un mot que je refuse, parce que pour moi c'est un usage qui veut dire quelque chose, c'est pas un mésusage, c'est une manière d'utiliser ce qu'on lui donne, donc c'est pas, et que c'est pas un tabou, qu'on n'est même pas obligé d'ailleurs de venir parler pour avoir droit à son traitement de substitution, hein, c'est-à-dire que c'est pas... T'as un traitement de substitution si tu viens voir le psy et que tu lui racontes ta vie, voilà, tu as droit si, si tu es dans les conditions, et qu'il n'y a pas de tabou, c'est-à-dire qu'au milieu du truc, moi ça m'arrive de dire, bon, il se trouve qu'on a d'ailleurs beaucoup plus de sniffers que d'injecteurs, et c'est beaucoup plus compliqué à gérer, je trouve, enfin pour moi en tous les cas, parce que les injecteurs parlent plus facilement, donc on est plus obligé souvent d'aller vers les... solliciter la question de la prise par sniff. Que les injecteurs en parlent beaucoup plus facilement aux psy, parce que, je sais pas, ils doivent imaginer qu'on a quelque chose à voir avec nous.
Il vous manque que les seringues, alors, finalement.
Eh ben, elles sont pas loin, voilà, c'est tout. Il faut peut-être qu'il y ait une distance entre le besoin, on crée peut-être un désir de seringue en éloignant l'objet.
Juste, je voulais juste préciser quelque chose. Tout à l'heure, vous disiez ça gênerait des usagers de qui aient des seringues à disposition. Alors nous, ce qu'on a fait, elles ne sont pas à disposition, il faut qu'ils les demandent, parce qu'effectivement, on a eu pas mal de retours d'usagers qui nous disaient, voilà, si elles sont là, devant, ça nous gêne, nous. Donc on a un petit local là où il y a les seringues, enfin il y a tout ce qu'il faut, et ils viennent demander, et puis voilà.
Usage alternatif de Subutex, parce que le mésusage est extrêmement connoté péjorativement, et du coup ça encore une fois enferme les usagers dans leur pratique et leur PMPA dans